France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Julien Perrault, biologiste, journaliste et éditeur, fondateur de la Salamandre.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
L'insecte sort de la fissure au pied du mur et grimpe sur une feuille morte. Un triangle et deux ronds noirs sur son armure rouge dessinent comme un visage stylisé. On dirait presque un masque de guerre. Ces couleurs contrastées attirent irrésistiblement mon œil d'enfant, mais je ne sais rien du haut de mes 5 ou 6 ans sur la vie de cette petite bête. Alors à quatre pattes dans le jardin de ma grand-maman, j'observe simplement les grands yeux ouverts à travers mes lunettes en cul de bouteille. Des années plus tard, j'apprendrai que les teintes contrastées de ces insectes servent à prévenir les prédateurs de leur goût extrêmement amer. Comme les coccinelles, ils portent en quelque sorte un costume dissuasif qui explique leur apparente nonchalance. Hélas pour les nommer, les scientifiques ont trouvé un nom lui aussi un peu dissuasif, pyrocore, autrement dit celui qui porte le feu, aussi bien par sa livrée colorée que par son goût brûlant. Heureusement, cette petite bête fréquente dans les jardins a reçu un nom plus évocateur, gendarme, parce que sa carapace rappelle les uniformes suisses des policiers d'autrefois, en souvenir des helvètes mercenaires des rois qui arboraient des costumes également flamboyants. À propos de Suisse, j'ai grandi dans ce petit pays prudent, persévérant et adepte du compromis, un pays très probablement trop confiant en son confort et en son avenir. Enfant, face au lac Léman et aux Alpes savoyardes couronnées par le Mont Blanc, j'ai eu cette chance prodigieuse d'avoir accès à un territoire encore préservé. Plages sauvages, forêts riveraines aux chênes gigantesques, rivière de rêve, mon petit Amazone, le long de laquelle, avec mon papa, nous cherchions parfois le simple plongeur. Ce trésor est toujours là aujourd'hui, même si la campagne alentour s'est terriblement enlaidie de centres commerciaux, lotissements et autres ronds-points fleurissants à la place des haies, des bosquets et des prairies. Bonjour Julien Perrault.
Bonjour Mathieu Vidard.
Ce témoignage, ce sont les premières lignes d'un livre, Une vie pour la nature, que vous publiez aux éditions de la Salamandre. Quelques années après cet épisode dans le jardin de votre grand-maman à l'âge de 11 ans, vous allez sortir le premier numéro d'une revue consacrée à la nature qui deviendra la Salamandre. Et c'est l'occasion cet après-midi de remonter aux sources de votre engagement, vous qui êtes devenu une figure du monde naturaliste. Et votre histoire, Julien Perrault, commence le 7 septembre 1972. Et je vous propose d'écouter le journal de votre naissance.
Interactualité Magazine, Yves Mourouzi.
Bonjour. Les titres de cette édition de 13h, au cours de laquelle nous recevrons François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste, au lendemain de la réunion du bureau exécutif de ce parti. Tel Aviv, cérémonie à l'aéroport de Lod ce matin, à l'arrivée des 10 cercueils contenant les corps des athlètes israéliens tués à Munich.
Ici Munich. Les Jeux ont repris ainsi que l'a voulu le Comité Olympique International. L'athlétisme national peut enfin pavoiser. Guy Drude, son capitaine, est médaille d'argent du 110 mètres haies.
Guy Drude, est-ce que les événements de ces derniers jours ont plus ou moins perturbé votre préparation, votre concentration ?
Perturbé ma concentration, non, parce que disons que j'ai pensé à l'un et ensuite j'ai pensé à l'autre. Moi j'ai vu là-dedans presque la fin des Jeux Olympiques. Ça prouve que le monde roule à l'envers et ses grandeurs et décadences, quoi.
Les heures d'inquiétude ne sont maintenant qu'un mauvais souvenir au Marineland de Labrec. Il y a en effet quelques jours, le dauphin vedette de Marineland tombait malade. Splatch, tel est son nom, souffrait d'une assez grave complication pulmonaire. Aussitôt, tout était mis en œuvre pour sauver l'animal et pour la première fois, on allait essayer l'oxygène, doublé de tous les antibiotiques nécessaires, placé à l'intérieur de sa nourriture. Splatch, comme tous les membres de sa famille, ne sont plus pour l'homme des animaux. On ne peut s'empêcher de les personnifier et l'on avait même l'impression en regardant ce dauphin qu'il se savait malade. Mais tout comme chez l'homme, le courage doit exister chez le dauphin. Le courage et l'espoir.
Voilà le journal de votre naissance du 7 septembre 1972. Julien Perrault avec les archives réunies par notre documentaliste Isabelle Fort-Rendu. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre ?
Ben merci beaucoup, c'est émouvant d'entendre ça. Pour moi, 1972, peut-être l'événement le plus important, c'est la publication du rapport Meadows, du rapport des limites à la croissance, qui à l'époque a fait vraiment la une de l'actualité, avec des scientifiques qui ont été reçus par tous les gouvernements du monde, quasiment, et qui nous annonçaient très clairement qu'un monde basé sur la croissance économique infinie ne pouvait pas indéfiniment continuer. Donc, depuis l'année de ma naissance, nos dirigeants savent que notre modèle actuel court à sa perte.
En fait. Et c'est la première fois que des chercheurs alertaient vraiment sur le risque de cette croissance infinie dans un monde aux ressources très très limitées.
Très limitées.
Été vraiment une bombe qui avait été lâchée à l'époque.
Oui, alors après il y a eu le choc pétrolier, il y a eu plein d'autres choses qui ont un peu distrait de l'attention, et puis le soufflet est retombé. Ouais. Et en 2025, nous en sommes où nous en sommes. Ouais. Et on a du travail.
Donc c'est aussi l'année effectivement de la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich. On a entendu cet extrait qui avait vraiment évidemment beaucoup beaucoup marqué cette année-là. Et puis dans les autres faits marquants de l'année 1972, la mise sous protection de la loutre en France. Voilà, c'est ce qu'on apprend aussi.
Oui, et le début de son retour depuis ses derniers bastions d'Auvergne et de Bretagne.
Ouais. Dans quelle région de la Suisse vous avez grandi, Julien Perrault ?
Alors moi j'ai grandi au bord du lac Léman. Donc, comme je l'ai écrit, en face de la Haute-Savoie et du Mont-Blanc, dans ce décor encore assez préservé. J'ai vraiment très tôt eu cette passion, cette fascination pour le monde vivant, pour tout ce qui m'entourait, avec l'exemple de cette punaise, mais ça pouvait être un oiseau, ça pouvait être une fleur, ça pouvait être un arbre. Et en même temps, j'ai très tôt eu la conscience de la destruction du monde vivant tout autour de chez moi. Comme enfant, ça m'a suscité beaucoup de colère.
Mais comment vous l'avez vu, ça, de vos yeux?
Je l'ai vu justement en voyant des ronds-points, des centres commerciaux, des gens qui détruisaient des animaux, parfois par méconnaissance, des chauves-souris ou des chouettes ou des choses comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de positif à mon échelle. Et comme à l'époque, évidemment, il n'était pas question de faire une chaîne YouTube ou un blog ou ce que vous voulez, j'ai simplement créé un petit journal en empruntant une vieille machine à écrire à ma grand-maman, etc. Et c'est comme ça qu'est née la Salamandre.
Ouais.
Et voilà, aujourd'hui, 42 ans plus tard... nous sommes une équipe de 28 salariés et nous produisons plein de choses pour vous relier à la nature, et on a un large public en Suisse et même encore plus maintenant en France.
Donc là, vous venez de résumer toute l'histoire en 30 secondes quasiment, donc on va prendre le temps d'y revenir un tout petit peu. Vous donc, qui êtes originaire de la Suisse, ce petit pays, prudent, c'est vous qui l'écrivez, un persévérant et adepte du compromis, très probablement trop confiant en son confort et en son avenir.
Oui, c'est général à notre société, je pense. Ça l'est peut-être encore un peu plus en Suisse. C'est vrai qu'on vit encore relativement préservé de l'impact direct du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, contrairement à d'autres pays du Sud, qui sont vraiment déjà aujourd'hui extrêmement impactés et qui peut-être même vont devenir invivables.
Pourtant, les montagnes témoignent de
alors,
ça.
Alors oui, oui. Alors si on ouvre les yeux, c'est évident. Mais disons qu'on n'en est pas encore à un stade où notre confort est menacé. Et pourtant, ça va venir. Donc, c'est vrai que j'ai lancé cette petite pique au début du livre, parce que pour moi, c'est important qu'on se réveille et qu'on agisse tous au niveau individuel, mais que ça agisse aussi au niveau politique.
Qu'est-ce qu'ils disaient vos parents, alors, dans ce
alors,
décor suisse?
Un papa agriculteur, ça pour moi c'est très important, arboriculteur et vigneron, et une maman secrétaire médicale.
Quel type d'agriculteur?
Un agriculteur qui était assez en avance sur son temps, parce que son domaine agricole avait été sélectionné pour faire des expériences, pour mettre au point des nouvelles méthodes pour utiliser moins de pesticides. À l'époque, c'était très nouveau, c'était ce qu'on appelait des méthodes par confusion sexuelle. Donc on utilisait des phéromones de certains papillons dont les chenilles mangeaient des pommes. On faisait des pièges avec ces phéromones pour attirer les mâles, pour que ces papillons ne puissent plus se reproduire, pour éviter en fait des traitements chimiques.
Donc c'était des pesticides naturels, oui. Et alors ça a fait ses preuves ou pas ?
Oui, oui, ça se pratique toujours en agriculture, en arboriculture, largement maintenant. Mais c'était un peu les débuts de ce genre d'approche.
Et votre père avait une grande exploitation ou pas ?
Il avait à peu près en tout 20 hectares.
Ouais. Donc c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui.
Donc vous vivez quoi, dans cette ferme, on peut dire ça comme ça?
Voilà, je vis dans ce domaine, et puis après, mes parents se séparent. À l'école, je suis très décalé en fait, des préoccupations de mes petits camarades. Donc en fait, la nature est assez vite devenue pour moi aussi un refuge. Ouais. Un lieu où je pouvais me ressourcer, reprendre du courage, reprendre de l'énergie. Et c'est justement un des messages aussi que j'aimerais transmettre à travers ce livre. C'est que finalement, aujourd'hui, dans cette époque quand même assez angoissante que nous vivons, la nature est appauvrie, elle est menacée. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'elle n'est pas rancunière, dans le sens qu'elle est toujours là autour de nous et qu'elle peut gratuitement nous offrir une extraordinaire ressource pour rester debout et positif à travers toutes les crises qui nous attendent.
Et donc, il y a ce décalage que vous ressentez vraiment par rapport à vos copains et vos copines d'école, très tôt ?
Oui, et puis ça, c'est accentué par un handicap visuel. En fait, à l'époque, je portais, comme je l'évoquais, des très grosses lunettes.
Des culs-bouteilles.
Voilà. Alors, forte myopie, maintenant, qui est corrigée avec des verres de contact, mais j'ai un autre problème dans l'œil qui n'est pas corrigeable. Donc, je vois, si je fais un test chez un opticien, on va me dire que je vois 25% d'une vue normale. Alors, c'est un chiffre comme ça. Mais la réalité, pour moi, de cette limite physique, c'est qu'évidemment... Si je me passionnais pour les timbres poste, ben, vous voyez, je prendrais une grosse loupe, c'est pas très grave.
Ouais.
Comme passionné de nature qui rêve d'observer des hermines, des busards, des coqs de bruyère, etc., forcément, j'ai dû faire avec cette limite, en fait. Et dans ma vie, ben, c'est souvent une frustration. Et en même temps, j'explique justement dans ce livre, Une vie pour la nature, que moi, j'ai essayé de prendre ce handicap. Pour le positif que ça pouvait m'amener. Et je pense que parfois, une limite physique, où finalement, on trimballe tous des casseroles dans notre vie, on a tous des ombres, des difficultés, et on peut essayer aussi d'en tirer des choses positives.
Mmh. Mais il y a un repli sur vous-même, en fait, il faut aussi le comprendre comme ça, par rapport encore à votre milieu scolaire et au regard que pouvaient porter les petits camarades sur vous.
Oui, et puis je pense qu'à l'époque, j'étais vraiment extrêmement casse-pied parce que je faisais des grandes déclarations professorales sur la vie des lichens ou des escargots qui devaient être assez barbantes. J'avais zéro sens de l'humour, surtout pas sur moi-même. Donc mon frère et ma sœur ont été assez patients, ma famille aussi, et puis j'espère que j'ai un peu évolué depuis.
On va vous écouter dans une émission de radio. Vous aviez 12 ans, c'était sur la radio suisse, le 16 septembre 1984. L'émission s'appelle Escapade.
Bon, alors, c'est une grande maquette qui fait 1,60 m sur 1,20 m. Alors, de ce côté ici, nous avons la partie la plus ancienne de la maquette, avec une période qui s'étend d'il y a 225 à 195 millions d'années. Alors, nous avons déjà des petits dinosaures bipèdes.
Tu connais le nom exact.
Ça, c'est des Saltoposuchus.
Tu me le répètes, c'est tellement beau.
Saltoposuchus.
Mais par exemple, cette collection de minéraux, comment l'as-tu constituée ?
Ah, cette collection de minéraux, c'est des minéraux que j'ai trouvés, que j'ai achetés ou que j'ai échangés.
Parce que tu te promènes dans la nature avec...
Ah oui, alors je me promène très souvent avec la loupe, le couteau, la petite feuille pour marquer tout ce que j'ai trouvé, et puis voilà. Et puis les jumelles et l'appareil photo.
Voilà, 12 ans, Julien
12 ans, c'était une émission de télévision déjà à l'époque.
Le petit côté professoral, on l'entend un petit peu quand même déjà.
Vous voyez, c'est assez vite casse-pied quand même.
Non, mais c'est surtout une maturité qui est incroyable. Vous avez une maîtrise de votre sujet qui est... Et encore, on écoutait les archives qui sont beaucoup plus longues, évidemment. Mmh. C'est stupéfiant quand même, non ? À 12 ans.
Ben, j'étais vraiment dedans. J'étais
ouais,
vraiment
c'est
dedans.
Le moins qu'on puisse dire,
c'est vrai que j'en suis pas ressorti.
Ouais, mais la télé, comment ça se fait que vous vous retrouvez dans une émission de télé à 12 ans, en fait ? Vous avez été repéré comment ?
Ben, en fait, il y avait à l'époque une émission de télévision hebdomadaire sur les animaux, avec un présentateur qui était un peu le petit Alain Bougrain-Dubourg local suisse. Mmh. Et évidemment, que je regardais cette émission de télévision religieusement tous les dimanches. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit à ce monsieur en lui expliquant que j'avais un espèce de musée de sciences naturelles dans ma chambre, que je faisais un petit journal, etc.
Et il se déplace dans votre chambre ?
Et puis deux, trois semaines après, il me téléphone. Et puis deux, trois semaines après, il débarque avec une équipe de télévision.
Dans votre chambre ?
Dans ma chambre. Et puis à l'époque, c'était des très grosses caméras, des très gros trépieds. Il a fallu même démonter la porte de ma chambre pour rentrer les caméras, je me souviens.
Oui.
Et puis comme à l'époque... tout le monde ne regardait pas Netflix et YouTube, et que tout le monde regardait la télévision. Ces premières émissions de télévision, parce qu'il y en a eu d'autres, ont eu un très gros retentissement en Suisse à l'époque.
Ouais. Donc vous faites visiter votre petit musée, votre cabinet de curiosité.
Exactement.
Avec une assurance, mais qui est quand même très étonnante.
Ben oui, avec déjà la passion en tout cas.
Ouais. Alors ce petit musée d'ailleurs chez vous, vous le créez avec quoi ? Ce que vous ramassez, ce que vous observez, ce que vous achetez, ce que vous échangez ?
Oui, un peu de tout, exactement. Ouais. Et puis en fait, ma grande frustration, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs. C'est pour ça que je me suis dit, il me faut une pièce maîtresse. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai construit cette maquette par terre, qui prenait d'ailleurs la moitié de la chambre, pour représenter l'ère secondaire, l'ère des dinosaures, et en espérant que ça m'amènerait plein de visiteurs. Voilà.
Et ce n'était pas le cas ?
Oh, il y en a eu, mais en fait, assez vite, mon objectif, c'est plutôt refocaliser sur le petit journal que je faisais déjà à l'époque, avec le souhait que chaque numéro soit plus beau que le précédent, que tout ce que je raconte de la nature, voilà, touche le plus de gens possible, et que chaque numéro soit plus diffusé. Donc c'est vrai qu'en Suisse romande, très vite j'ai été médiatisé, justement à la télévision, à la radio, dans les journaux, et petit à petit ça a construit le premier lectorat de la salamandre.
Et alors on vous qualifie de Mozart naturaliste, c'est ça, les médias vous collent cette étiquette.
Très gentil, oui.
Ouais.
Ben oui, voilà, c'est comme ça que fonctionne le journalisme, on trouve des formules choc comme ça pour qualifier les gens.
Et vos rêves alors, ils sont peuplés d'animaux et de créatures, c'est vraiment votre univers?
Ah ben oui, c'est mon univers, et dès que j'ai un moment, je vais affûter au terrier de blaireau, je vais chercher
Martin Blaireau. Terrier de blaireau, ça veut dire quoi?
Je vais affûter, faire un affût au terrier de blaireau, pardon, je parle trop
d'accord,
vite.
D'accord, ok.
Ou bien je vais essayer d'observer le martin pêcheur, ou bien je vais chercher les orchidées, enfin voilà, la nature est mon terrain de jeu, et c'est vraiment ce qui m'a toujours beaucoup touché, et ce qu'on essaie de faire à travers toutes les productions de la salamandre, c'est vraiment ça, c'est de présenter la nature, finalement la nature ordinaire, la nature que vous pouvez observer tout autour de chez vous. Il n'y a pas besoin d'aller voir des girafes ou des baleines. Enfin, le safari, il commence vraiment sur le pas de notre porte.
Même si vous avez beaucoup voyagé par la suite, on pourra en parler aussi tout à l'heure. Vous racontez dans votre livre qu'un matin, vous arrivez à l'école avec votre ciré jaune sur lequel vous avez dessiné des logos et des slogans d'associations environnementales. Comment c'est reçu par vos camarades?
Alors, je me prends en pleine tête l'extrême solitude de l'écolo qui veut faire quelque chose de constructif pour le bien commun. Et qui se retrouve complètement décalé des autres qui pensent à la prochaine partie de foot. Et j'ai presque cru que j'allais me faire lapider ce matin-là. Ça a été très dur, ouais. Ça a été très dur et ça m'a rendu très malheureux. Et je me suis senti très seul dans ma mission de vie, quoi, finalement, à ce moment-là.
Oui, vous étiez investi de quelque chose, il y a vraiment ça.
Ouais.
Et vos maîtres ou maîtresses vous défendaient ou...
Oui, il y a eu des super enseignants. Il y en a eu un notamment, je le raconte dans un ou deux chapitres, qui nous emmenait, bien avant qu'on parle de faire l'école dans la nature, dans la forêt, qui nous emmenait observer les nids des hirondelles, apprendre les noms des petites fleurs le long des chemins du village, etc. etc. C'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas tout le temps devant des écrans, on vivait un peu moins dans les villes, enfin... J'ai vu aussi en 40 ans à quel point notre monde s'est éloigné des autres vivants, du monde sauvage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on le retrouve, parce qu'il est très riche pour nous.
Et cette triste solitude des écolos investis pour le bien commun, est-ce que vous la ressentez toujours ou pas, d'une certaine manière, même si vous avez créé quelque chose qui est cette revue dont on reparlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quand même toujours quelque chose qui fait qu'on se sent un peu seul quelque part, hein?
Alors en fait, il y a... Ce que j'ai beaucoup ressenti dans mon parcours, c'est qu'il y a une espèce de commisération. C'est-à-dire que le fait que vous vous inquiétiez du destin des papillons, les gens trouvent ça très amusant, finalement. Vous voyez, c'est un peu pittoresque. Donc j'ai beaucoup été confronté à cette attitude. Maintenant, évidemment, l'enjeu de la biodiversité a quand même gagné en légitimité. Mais je ne sais pas si c'est mieux, parce qu'en même temps, on vit dans une époque aujourd'hui où on assiste vraiment à une espèce de négationnisme environnemental, où on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais en France, en Suisse, c'est aussi à l'œuvre que finalement la préservation du vivant, la préservation de notre climat, en fait, la gravité de ces enjeux sont niés par beaucoup de gens. Et en plus de ça, les écolos de service, c'est des excellents boucs émissaires politique. Alors que, de nouveau, c'est de notre bien commun, c'est de notre maison. L'écologie, oikos, en grec, ça veut dire la maison. En fait, l'écologie, c'est de prendre soin de notre maison. On n'en a pas d'autre. L'avenir de l'humanité n'est pas sur Mars. On a juste à disposition une petite bille bleue qui est perdue dans l'univers. On n'en a pas d'autre. On partage cette maison avec plein d'autres êtres vivants qui contribuent aussi à faire que cette petite maison nous soit confortable. Et vraiment, c'est le grand enjeu du 21e siècle, c'est que cette maison, elle reste vivable pour nous. C'est pas juste pour embêter les gens, l'écologie. Hein. Faut vraiment ouvrir les yeux. C'est notre avenir, c'est notre présent même maintenant qui est en jeu.
Et cette insensibilité, ça suscite quel sentiment chez vous? Du dépit, de la colère, une lassitude aujourd'hui?
Alors, de manière générale, face aux enjeux environnementaux aujourd'hui, on peut traverser beaucoup d'émotions. J'en parle aussi dans la deuxième partie du livre. Hein. On peut ressentir de la colère, de la tristesse, du dégoût. Moi, ça m'arrive souvent. Et la posture que je propose, enfin que j'essaie de pratiquer dans ma vie et que je propose dans ce livre, c'est vraiment une espèce de parcours de funambule. C'est à la fois d'être lucide. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on doit au monde d'être conscient de ce qui se passe. Et en même temps, de rester connecté à la joie, de rester ancré, de rester positif. Parce que notre vie, c'est quelque chose de précieux. Il ne faut pas qu'on se la gâche.
Julien Perrault, vous êtes notre invité au carré.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Hey, vous entendez? C'est le printemps. C'est comme un grand orchestre symphonique. Alors, ça vous dirait d'apprendre les chants des oiseaux? Allez, aujourd'hui, on se lance avec une leçon pour débutants. Notre objectif, 7 chanteurs pas trop durs à reconnaître.
Extrait de votre Minute Nature, Julien Perrault, le chant des oiseaux. Vous êtes calé en reconnaissance de chants d'oiseaux?
Oui, alors c'est ma chaîne YouTube, hein, la Minute Nature, ouais. Effectivement. Du fait que je n'ai pas une très bonne vue, je me suis très vite intéressé à ce que je pouvais repérer à l'oreille. Et c'est vrai que je repère énormément d'oiseaux à l'oreille et je m'amuse même autour de chez moi à reconnaître les dialectes ou même à reconnaître certains oiseaux individuellement. Ouais. Parce qu'avec un petit peu d'entraînement, on peut vraiment même les reconnaître individuellement au chant.
Bon, est-ce qu'il y a des dialectes suisses très, très particuliers chez les oiseaux?
Bah, chez beaucoup d'oiseaux, il y a des petites différences régionales. Oui. C'est vraiment très frappant à l'échelle de quelques dizaines de kilomètres chez les oiseaux qui ont pas. Il y en a qui ont des chants très, très stéréotypés où il y a peu de variations. Et pour d'autres qui sont plus créatifs dans leur phrasier musical, on peut vraiment remarquer des différences subtiles.
Et vous communiquez avec eux ou pas? Est-ce que vous arrivez à parfois entamer quelques dialogues?
J'arrive à en imiter quelques-uns. Des fois, on se raconte des histoires, mais je ne vous le ferai pas en direct.
Bon, vous connaissez les chanteurs d'oiseaux?
Oui, je pensais à eux, évidemment. Là, je suis complètement battu de toute façon.
Qui sont évidemment des éminences dans leur
des
domaine.
Modèles.
En 1983, Julien Perrault, vous qui publiez donc Une vie pour la nature, vous avez l'idée de créer une revue justement autour de votre sujet de cœur. Et vous faites ça tout seul dans votre coin?
Oui, alors j'emprunte donc une vieille machine à écrire à ma grand-maman. Il n'y avait pas encore d'ordinateur à l'époque, en tout cas pas pour moi. Je m'arrange avec ma maman pour pouvoir faire des photocopies que je vais payer. Hein. On ne va pas faire ça clandestinement, là, dans le bureau où elle travaille. Et puis, je démarre au rythme d'une parution par mois. Donc au début, La Salamandre est mensuelle.
Et vous êtes tout seul à écrire?
Et je suis tout seul à écrire, oui. Alors ça a été assez longtemps, j'ai vraiment tout fait tout seul. Puis petit à petit, j'ai trouvé des amis passionnés de nature qui ont aussi contribué par des photos, des textes ou des dessins. Mais c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, j'ai fait ça tout seul. Et puis au bout de 3 ou 4 ans, il y a une connaissance qui tenait un magasin d'informatique qui a parlé de moi à Apple. Et puis, ils ont trouvé amusant de voir un enfant qui faisait un petit journal. Et comme ils étaient à l'époque en train de lancer ce qu'on appelait le desktop publishing, donc c'était les débuts de la mise en page, en fait, démocratisée, ils m'ont prêté puis offert un ordinateur parce que c'était bien pour eux de montrer que même un enfant de 13-14 ans, il arrivait à faire une mise en page avec un Macintosh.
Vous avez été l'objet d'une publicité, donc...
Voilà, donc j'ai fait quelques salons d'informatique. J'ai même dû vendre quelques ordinateurs.
Ah oui, carrément.
Ouais, sur des salons.
Ah oui, vous étiez employé par Apple, quoi.
Voilà, ils m'ont un petit peu utilisé comme ça, mais moi, ça m'a permis d'améliorer fortement la présentation de mon magazine. Et c'est vrai que dès le début, pour moi, c'était très important l'aspect graphique. Parce qu'en fait, quand vous feuilletez un magazine, avant même de lire les titres, avant même de lire les légendes des photos, avant même de regarder les images, il y a quelque chose. Il y a une ambiance graphique qui va faire que ça sera attractif ou pas.
Ouais.
Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, dans toutes nos productions de La Salamandre, que ce soit nos revues, nos livres, vraiment, on attache une grande importance au design, au graphisme.
Et c'est quoi votre signature graphique, alors, à La Salamandre, s'il fallait la qualifier pour...
Je dirais que c'est une signature graphique assez épurée, inspirée. Bon, en Suisse, il y a aussi toute une tradition de la typographie, de la mise en page héritée du Bauhaus. Vraiment de la simplicité, mais de la force. Des dominantes, des équilibres entre les blancs et les zones qui sont utilisées, au service du message qu'on veut transmettre. Évidemment.
Avec beaucoup aussi le recours au travail des artistes, hein,
voilà.
Des dessinateurs et des
Exactement.
Photographes d'ailleurs. Mais
Exactement.
Là aussi, il y a quand même une patte salamandre.
Absolument. Ouais, on défend aussi le travail magnifique des peintres animaliers.
Ouais, et donc des artistes naturalistes.
Hein. Exactement. Et qui font ça sur le terrain, pour de vrai, sous la pluie parfois.
C'était quoi le premier numéro alors Ça ne s'appelait pas La Salamandre d'ailleurs à l'époque. Hein.
Oui, alors la première année, je vous ai résumé, la première année, ça portait un nom abominable. Ça s'appelait paléontologie, parce que donc c'est la science qui étudie les vies disparues, les vies passées, puisque j'étais très intéressé par la préhistoire, donc j'ai commencé en une année par raconter en fait toute la préhistoire dans mon petit journal. Et puis en fait, au bout d'une année, j'ai trouvé ça un peu casse-pied, parce que je pouvais parler que d'animaux qui me serait un peu difficile d'observer.
Ouais.
Étant donné que les tyrannosaures, ça ne court plus les rues depuis un bout de temps. Donc là, j'ai fait le switch et je me suis dit, maintenant, je vais parler de la nature d'aujourd'hui. Je vais aller interviewer le pissenlit, je vais aller poser des questions aux crapauds, je vais aller observer les mouettes au bord du lac, etc.
Et ils vous répondent ?
Et ils m'ont répondu, oui.
C'est vrai.
Il y a plein d'interviews, plein de reportages. Et pour moi, ce qui était chouette, et c'est quelque chose qu'on a toujours ensuite développé, c'est pas seulement en fait, de transmettre des connaissances, mais c'est aussi de transmettre des émotions, de raconter des histoires et d'essayer aussi finalement comme ça de toucher le cœur des gens.
Donc vous inventez des entretiens par exemple avec un pissenlit, avec des réponses évidemment basées sur la science.
Oui,
parce que vous avez cette exactitude.
Alors ce serait bien évidemment, c'est ce que je faisais à l'époque. Évidemment, aujourd'hui dans la revue Salamandre, on ne pratique plus tout à fait comme ça, mais comme enfant c'est ce que j'ai fait, oui.
Ouais. Et alors vous arrivez à vendre des numéros ?
Alors, j'arrive à vendre des numéros.
Quel est votre premier lectorat alors ?
Alors, premier lectorat, un petit peu camarade d'école, un peu famille, et puis ensuite les premières émissions de télévision, radio, articles dans la presse. Et puis assez vite, je me suis retrouvé avec 100, 200, 300 abonnés. Et à partir de ce moment-là, les gens me payaient un abonnement pour une année.
Ouais.
Donc, il n'était plus question que j'arrête. Donc, la machine était lancée. Et en fait, depuis 42 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Ouais.
Mais vous faites des études parallèlement ou pas ?
Oui, un petit peu quand même.
Parce que tout ça, ça se passe quand même à la maison.
Oui, oui, non, alors j'ai fait.
Et j'imagine que vos parents vous laissent pas faire que ça quand même.
Non. Alors il fallait aller à l'école de temps en temps, alors que j'ai fait une formation qui n'existe plus trop de nos jours. J'ai fait du latin et même du grec ancien,
oui.
Une formation plutôt littéraire. Et ensuite, j'ai fait des études scientifiques en biologie, donc avec un master en botanique à l'université de Neuchâtel. Donc j'ai un parcours en fait à moitié littéraire, à moitié scientifique.
Ouais. Et alors le quotidien d'un étudiant comme vous, c'est quoi alors concrètement entre toutes ces activités ? Vous faites quoi alors toute la semaine ?
Alors comme étudiant en biologie, les meilleurs moments c'était les excursions sur le terrain pour aller apprendre les noms des fleurs, pour aller observer des animaux. Il y avait des travaux pratiques de chimie ou de physique qui étaient très durs pour un littéraire comme moi. Il y avait de temps en temps une petite fiesta avec d'autres étudiants, et puis entre deux, il fallait écrire des articles, faire des photos.
Donc il y a des cours, il y a les chroniques, parce que vous faites de la radio aussi.
Oui, à l'époque, j'ai travaillé pour d'autres médias aussi. J'ai un peu appris le journalisme comme ça sur le tas, effectivement.
Donc il y a des articles pour un magazine qui s'appelle L'Hebdo, qui n'existe plus aujourd'hui, qui finance d'ailleurs un petit peu vos études.
Exactement.
Et votre propre journal.
Voilà.
Et tout ça, vous avez quel âge ?
Là, j'avais 18, 19, 20 ans. Alors à ce moment-là, j'ai quand même pris soin de décréter que la Salamandre ne paraîtrait plus que tous les deux mois, parce que je me suis bien douté en démarrant les études universitaires que ça serait... Oui, ça a été assez dense, assez sportif.
Mais vous êtes complètement investi, en fait. Il y a une passion qui vous anime et qui se ressent dans tout ce que vous faites en même temps.
Ça n'a pas changé, en fait. J'ai 52 ans et tous les matins, je me lève et je me dis, ma mission de vie, c'est de transmettre de l'amour, du respect pour le monde vivant, essayer de porter un message positif au monde. Et c'est vrai que ça me porte, ouais.
C'est vraiment votre mission. Vous êtes le Jésus de la nature, quasiment, Julien Perrault.
Non.
Est-ce que vous marchez sur les eaux, celles de votre mare, par exemple ?
Oui, alors non, quand même. Non, je marche. Non, je ne vais pas marcher dans ma mare, je vais écraser des bébés tritons.
Ouais. Ah oui, donc
vous pensez pas.
Oui, mais on peut marcher sur l'eau, au-dessus.
Oui, mais ça, je ne suis pas très doué. Non. Je suis pas très doué, non.
Quelles sont les figures qui vous ont inspiré dans votre parcours ? Parce que vous avez évoqué vos parents.
Oui, alors mes parents...
Vous avez quand même un grand-père naturaliste, avec votre père agriculteur.
Alors, un grand-père naturaliste que je n'ai pas connu. Et puis, par contre, il y a un grand naturaliste suisse qui était à la fois peintre, graveur, sculpteur et philosophe, qui s'appelait Robert Reinhard, qui est quand même aussi assez connu en France, et que j'ai eu la chance de côtoyer parce que c'était un ami de mon grand-papa que j'ai pas connu. Je pense que cette rencontre qui m'a aussi beaucoup marqué par rapport à la magie des croquis, des aquarelles, de toutes ces images de terrain ramenées par les peintres animaliers.
Il faut le lire et il faut le voir aussi, parce qu'il y a ses dessins, il y a son écriture aussi.
Absolument.
C'est toute sa plume dans ce ensemble qu'il faut découvrir.
Et c'est vrai aussi que plein de réflexions par rapport à notre relation au monde vivant, au sauvage, tous ces soirées avec Robert Reinhard, ça m'a beaucoup marqué. Ça me porte encore aujourd'hui.
Et votre grand-père naturaliste, vous le surnommez Jean-Louis Descastors.
Oui, parce que justement avec Robert Reinhard, en 1958, à l'époque, les castors donc, qui avaient failli disparaître d'Europe occidentale, ils ont été sauvegardés, mis sous protection en France in extremis dans les années 20. Il en restait quelques dizaines du côté du Gardon et de la Camargue. Ils étaient en train petit à petit de reconstituer leurs effectifs, donc dans les années 50. Et mon grand-père, avec quelques autres naturalistes, ils ont eu le projet d'aller chercher les castors dans le sud de la France. Donc, il a fallu les attraper dans des filets. Une aventure incroyable. Les ramener en Suisse sur le toit de leurs deux chevaux. Je vous imagine la scène dans une petite cage.
Ouais.
Et puis, les relâcher dans une rivière suisse pour en fait la première action de réintroduction de castors en Europe occidentale. Il y en a eu plein d'autres après en Suisse et aussi dans toute la France. Et voilà, mon grand-père a participé à ce beau projet.
Donc grand-père castor, enfin Jean-Louis des castors.
Exactement.
Hein. Les pauvres castors sur les dos de le dos de la deux chevaux, je les plains. Les
oui, mais animaux, après ils ont passé des bons moments dans les rivières suisses, heureusement.
Oui, oui, oui. Julien Perrault, ce magazine La Salamandre, donc effectivement vous le créez très très tôt. Il continue d'ailleurs aujourd'hui. Et vous avez ce label Image Nature Responsable. On parlait un petit peu du travail justement de tous ceux que vous invitez dans chaque page de votre magazine, de votre revue. C'est quoi ce label d'ailleurs? Ça existe en France ou pas?
Alors en fait, c'est un label que nous avons créé et c'est l'idée que vous avez toutes sortes de manières de faire des images de nature, alors sans même parler d'intelligence artificielle qui arrive maintenant. Mais nous, on a envie de défendre le travail des artistes, photographes, peintres animaliers ou d'ailleurs réalisateurs, parce qu'on a aussi maintenant une plateforme de documentaires en ligne. Donc on a aussi des activités dans l'audiovisuel. Et on essaie vraiment de défendre le travail de ces gens qui travaillent vraiment de manière éthique. C'est-à-dire notamment qui minimisent le dérangement aux animaux sauvages, qui n'apprivoisent pas d'animaux, qui ne posent pas d'appât, enfin qui ne modifient pas leur comportement.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Ce qui n'est pas toujours le cas
dans le monde naturaliste.
Dans le monde de la photographie animalière, il y a beaucoup de bidouilles, en fait, pour observer les animaux de plus près. Dans certains cas, ça porte pas trop à problème, mais dans d'autres cas, ça peut être très gênant pour certaines espèces.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer, par exemple?
Vous pouvez déranger, par exemple, des animaux qui sont en train de se reproduire, des oiseaux qui sont en train de nicher. Vous avez des espèces qui sont extrêmement sensibles aux dérangements.
Tout ça pour faire la bonne photo.
Voilà, vous avez des animaux rares qui sont traqués et poursuivis par des photographes animaliers. Enfin, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui font de la photo animalière et souvent qui connaissent pas bien les mœurs des animaux sauvages et ça peut créer, en fait, beaucoup de dégâts.
Une vie pour la nature. Julien Perrault, ça sort ces jours-ci aux éditions La Salamandre. Vous êtes notre invité au carré.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Je m'appelle Julien Perrault et j'ai 14 ans. Depuis plusieurs années, j'observe notre nature, plantes et animaux. Maintenant, j'ai souvent peur. Souvenons-nous bien que nous sommes partie intégrante de la nature et que nous avons tout intérêt à ce qu'elle se porte bien. Utopie ? Absolument pas. L'utopie serait plutôt de croire que rien ne peut nous arriver. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je veux vivre, fonder une famille, avoir des enfants et exercer un métier que j'aime. Or j'ai peur alors que les solutions existent.
Ce jeune homme de 14 ans, c'est vous, Julien Perrault, en 1987, toujours sur la radio-télévision suisse, vous qui publiez Une vie pour la nature aux éditions La Salamandre. Qu'est-ce que vous inspire le fait de vous entendre et de tenir ce type de propos à l'âge de 14 ans ?
Plusieurs choses. Déjà, le constat que je suis aligné, c'est-à-dire que je peux exactement dire la même chose aujourd'hui.
Sauf que vous avez fait des enfants
depuis. Sauf que j'ai fait des enfants entre-temps, effectivement. Voilà. Mais que je suis parfaitement aligné sur le constat de la gravité de la situation et sur l'urgence que notre monde, que notre société arrête de fonctionner en fait à l'inverse du bon sens. Ça, c'est une chose. Donc, je suis assez content. Je me sens juste, si vous voulez, par rapport... Je défends toujours les valeurs que je défendais quand j'étais enfant. À La Salamandre, nos revues ne sont pas en kiosque pour des raisons environnementales. On veut pas qu'il y ait de gaspillage de papier. Tout est imprimé sur du papier recyclé. Il n'y a pas de publicité dans nos revues non plus. Enfin, on essaie vraiment d'avoir une très forte éthique dans tout ce que nous faisons. Et je crois que, voilà, on vit vraiment de nos abonnés. Nos trois revues vivent de nos abonnés. Donc, il faut vous abonner sur le site internet de La Salamandre pour nous soutenir. C'est vraiment important. Et je veux dire par là que vraiment, je me sens, si vous voulez, j'ai pas fauté par rapport au rêve de cet enfant d'il y a 40 ans. Et en même temps, ce que je constate, c'est qu'en 40 ans, le monde, évidemment, n'est pas fondamentalement allé dans la bonne direction. Et ça, c'est quand même dur à recevoir aujourd'hui parce que ça me rend parfois triste. Ouais.
Est-ce que vous avez toujours peur ou pas ?
Peut-être un petit peu moins avec le temps. Je me console parfois en me disant que la nature en a vu d'autres. Il ne faut pas s'inquiéter pour la planète ou pour la nature, qui a déjà traversé beaucoup de catastrophes, dont 5 grandes extinctions de masse, comme on les appelle. On est en train de provoquer la 6e. Donc si on détruit toutes les baleines, tous les récifs de corail et toutes les forêts tropicales, à un moment donné, ça va faire de la place pour d'autres choses. On peut se consoler comme ça. Mais en même temps, que de beauté on détruit. C'est tragique que la beauté du monde n'ait pas plus de prix dans notre civilisation. Que c'est ça, en fait, qui me fait le plus mal. C'est toute cette infinie beauté qui n'a pas de valeur dans notre société et qu'on détruit et qu'on brûle et qu'on piétine. Ça, je trouve que c'est terrible.
Ça, ce message, encore une fois, 14 ans 1987, c'est un an après Tchernobyl. Hein.
Oui.
Vous avez été marqué par cet événement ?
Oui, alors très, très clairement, il y a eu deux grandes catastrophes écologiques en 86. Il y a eu Tchernobyl et puis il y a une autre catastrophe sur le Rhin, une pollution chimique qui a détruit la biodiversité du Rhin. Depuis une usine chimique suisse, ensuite en France et en Allemagne. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Oui, vraiment, j'ai été très touché par ça. Et voilà, je me suis dit, ben, en même temps, après, c'est clair qu'à travers tout ce qu'on fait à la Salamandre, on essaie, et aussi dans mon livre, donc Une vie pour la nature, là, ce que je raconte, c'est que le défi, malgré tout, c'est de rester positif. Et c'est très important, et c'était très important pour moi aussi, dans ce livre, de proposer des pistes concrètes, en
alors,
fait.
Alors, c'est quoi vos pistes concrètes, concrètement?
Oui, alors c'est important.
Parlons-en,
donc,
c'est quoi alors,
je le disais avant, donc être lucide, ok, c'est une chose. Après, qu'est-ce que je peux faire de toutes les émotions que...
Parce que vous dites, c'est normal d'être éco-anxieux, mais il faut agir. Alors, il faut agir de quelle façon?
Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'il faut, si vous déprimez dans votre lit toute la journée, vous allez rien pouvoir faire de constructif et vous allez gâcher votre vie. Donc, une des solutions...
Mais ça, c'est pas toujours facile quand on va
pas bien.
C'est
pas toujours facile, non. Je sais.
C'est une injonction qui, quand même, peut secouer des personnes qui ont bien du mal, justement, à sortir de leur état de torpeur ou de...
C'est vrai, vous avez raison. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de proposer... alors, en même temps, je suis pas psychothérapeute, hein, mais ce que je constate, c'est que le contact avec la nature peut beaucoup aider, peut apporter beaucoup de force, de bien-être, de courage, etc. Et en fait, ce que j'observe aussi, c'est quand on se met en action, parce qu'il y a des tas de choses fantastiques à faire aujourd'hui pour préserver le vivant, pour sensibiliser son entourage, des projets dans son jardin, dans son quartier, dans son village, dans sa commune, dans des associations. Et en fait, dès qu'on se met en action, en mouvement, en lien avec d'autres gens, en fait, ça donne beaucoup d'énergie d'agir.
Est-ce que les Suisses, dans la façon dont ils votent, ça a été le cas récemment, en février dernier, autour de l'écologie, justement, suscite beaucoup d'espoir chez vous quand on voit qu'il y a un référendum, on appelle ça votation aussi chez vous, c'est ça? C'est la même chose ou pas?
Oui, enfin, il y a deux types de votations, mais c'est vrai qu'il y a eu en particulier au mois de septembre un moment, c'est assez fou en Suisse, parce que de temps en temps, le peuple peut vraiment donner son avis sur plein de sujets, ce qui est un système politique que je trouve quand même assez vertueux. Et en particulier en septembre, il y a une votation où on proposait à la population suisse de consacrer un petit peu plus de moyens pour préserver la biodiversité.
Mais ça veut dire quoi concrètement? Payer plus d'impôts?
Non, ça voulait dire que, en gros, ça représentait, je crois, même pas 1% de plus du budget global de l'État. Enfin, ça représentait quand même, je crois, 200-300 millions de francs qui devaient être affectés prioritairement plus à la biodiversité. Et je me suis beaucoup engagé dans cette campagne parce que d'habitude, je ne m'engage pas en politique, mais là, ça me paraissait tellement au-delà de la politique classique, partisane, si vous voulez, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, c'est égal. De nouveau, c'est notre maison qu'on doit sauver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le peuple suisse a refusé cette proposition, parce que en face de ceux qui défendaient le bien commun, qui ont essayé de défendre le bien commun, il y a eu beaucoup de populisme, de peur, des mensonges aussi, notamment qui ont fait peur à une partie du monde agricole.
Le résultat, c'était quoi?
Et le résultat, c'est qu'en fait, il y a 40%, un peu moins de 40% des Suisses qui ont voté pour et les autres ont voté contre. Donc ça va pas se faire. Et c'est très triste.
Et il y a eu une autre votation en février dernier, une initiative toujours des écologistes visant à inscrire dans la Constitution le respect des limites naturelles de la planète. Référendum pour une économie responsable dans les limites de la planète qui a été rejeté là aussi.
Oui,
un peu plus de 70%. Le non l'a emporté dans tous les cantons de Suisse.
Oui, et oui.
Donc c'est un constat amer aussi pour vous, j'imagine, Julien Perrault.
Oui, il faut faire avec. Il faut faire avec et il faut rester ancré dans l'instant présent. Il faut savourer ce moment précis maintenant. Je suis en train d'avoir une belle discussion avec vous. Vous êtes en train de nous écouter. C'est magique. La vie, c'est pas les catastrophes qui pourront se passer dans 10 ans ou dans 5 ans. La vie, c'est le moment qu'on est en train de vivre maintenant. C'est aussi
L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, je me concentre sur maintenant. Je me dis que ce week-end, je vais aller observer des beaux oiseaux, que je vais passer du temps précieux en famille et je me concentre là-dessus pour essayer de traverser un petit peu les misères du monde actuel.
Vous avez trois enfants, Julien Perrault. Ils sont comment, vos ados? Ils sont naturalistes aussi?
Ils sont cool.
Ils sont comme tous les ados avec leur portable?
Oui, ils sont comme tous les ados avec leur portable. Bon, je ne vais pas commencer à leur adresser des compliments parce que je suis évidemment totalement objectif. Mais non, c'est intéressant. Ils ont tous les trois un lien très fort avec le monde vivant.
Vous les emmenez beaucoup sur le terrain?
Je les emmène beaucoup. Puis il y a des phases où ils m'envoient balader, parce que c'est le cas de le dire, parce qu'ils n'ont plus envie d'aller se balader avec moi.
Ouais.
Et puis c'est OK. Et puis des fois, on se retrouve après. Et puis c'est chouette.
Bon, et ils veulent faire quoi plus tard?
Alors, le grand, il va faire programme architecture. La deuxième, ce sera plutôt littéraire. Et pour l'instant, la troisième, elle veut être maîtresse. Elle veut être dans une école, dans la forêt, où elle plante des arbres avec les enfants.
Ah, quand même.
Ah, quand même.
Et elle a quel âge?
Elle a 11 ans.
En avril 2024, l'année dernière, donc la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la Suisse pour violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, donnant raison donc à une association de femmes âgées suisses. On les avait même reçues ici à ce micro, qui attaquait l'inaction du pays face au dérèglement du climat. C'est la première fois que l'instance a sanctionné un État pour son manque d'initiative sur ce plan-là. Comment vont les aînés pour le climat que nous avions reçus ? Elles poursuivent le combat ou pas ?
Elles poursuivent le combat parce que le monde politique a reçu cette décision avec une grande, une attitude très hautaine. Mmh. Et ça me touche. Et c'est vrai que moi, ce à quoi je pense beaucoup, c'est à toutes les jeunes générations aujourd'hui. Et même justement en écrivant ce livre dont on parle aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup réfléchi aux générations futures qui sont pas encore là. Et en fait, c'est terrible de voir que notre surconsommation est en train de détruire notre avenir et même l'avenir de ceux qui sont pas encore nés. Et c'est paradoxal en fait que dans nos pays aujourd'hui, voilà, les écologistes souvent sont jugés, sont parfois emprisonnés pour des actes de résistance civique. Alors que les vrais écoterroristes, qui sont nos dirigeants, qui ne réagissent pas à la hauteur de l'enjeu, eux, ils passent leurs vacances sur des grands yachts. Donc, en fait, le monde fonctionne vraiment à l'inverse du bon sens.
Et il y a beaucoup de polarisation aussi. Hein.
Terriblement.
C'est-à-dire qu'on voit notre société qui est ultra divisée sur ces questions.
Oui, terriblement. C'est particulièrement...
caricaturé aussi beaucoup, d'ailleurs. Mais...
C'est particulièrement triste entre les protecteurs de la biodiversité et ceux qui travaillent la terre. Parce que là, il y a beaucoup de malentendus, en fait. Et il y a beaucoup d'agriculteurs, justement, pour qui les écologistes sont devenus un peu des boucs émissaires. Alors qu'en fait, les agriculteurs sont souvent des victimes d'un système agro-industriel qui les empoisonne avec des produits chimiques, qui les ruine, notamment en achetant beaucoup de produits chimiques, et qui détruit en fait la terre, qui est finalement leur outil de travail. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros enjeu.
Est-ce que vous avez eu envie de vivre immergé longtemps dans la nature, comme ont pu le faire avant vous bien des naturalistes ou des écrivains, Henri David Thoreau, plus récemment Gabriel Filtoshiba, qu'on a reçu aussi dans l'émission. Est-ce que ça, vous y avez pensé ?
Oui, alors en fait, je le pratique à petite dose parce que c'est vrai qu'avec nos trois magazines...
Oui, mais sur un temps long, un temps long justement, abandonné...
Alors c'est la difficulté justement, c'est qu'avec tout ce qu'on...
Parce que vous êtes aussi un entrepreneur, mine de rien. Hein.
Ben, je le suis devenu un peu par la force des choses.
Businessman.
Ben, je suis arrivé à la conclusion qu'en étant une équipe, on peut sensibiliser infiniment plus de monde que si j'étais resté tout seul. Donc, je me fais des grands bains de nature, mais c'est généralement 3, 4, 5 jours.
Mais vous ne pourriez pas couper totalement pour vivre une expérience de 1, 2, 3, 4 ans
Mais là, vous commencez à me faire envie. J'ai quand même coupé 3 mois pour écrire ce livre,
ouais.
Une vie pour la nature, et j'y suis arrivé. Et oui, peut-être qu'un de ces quatre, je vais faire un grand, grand bain de vie sauvage. Vous me faites très envie.
Merci beaucoup, Julien Perrault. Ça s'appelle donc effectivement Une vie pour la nature, et c'est publié chez vous, aux éditions La Salamandre. Merci beaucoup d'être venu au micro de La Terre au Carré. Et on termine l'émission, comme tous les jours, avec le répondeur et vos messages.
Bonjour La Terre au Carré, merci pour la qualité de vos émissions, c'est Maëlys de Seine-et-Marne. J'étais sur le point d'écouter un de vos podcasts et là, surprise et très mauvaise, j'entends une pub pour Esso. Oui, oui, vous avez bien entendu, Esso. Je suis complètement choquée, outrée et je vais de ce pas envoyer un message à la médiatrice de France Inter. C'est absolument inacceptable. Merci pour tout votre travail, à très bientôt.
Bonjour, nous sommes Véronique.
Et Nicolas, de Pontcharrat, en Isère, entre Chambéry et Grenoble.
Nous souhaitons partager avec vous l'ouverture de la seconde édition des 10 jours de rêve.
Rêve pour révolution, écologie sociale et solidaire.
Ce festival s'étale donc sur 10 jours, du 15 au 24 mai. On vous attend.
À bientôt.
Bonjour La Terre au Carré, c'est Carman de Espagnac-Sainte-Eulalie dans le Lot. Je viens d'écouter l'émission avec Brigitte Gauthier, cofondatrice de E114. J'avais un a priori sur le côté extrémiste de L214 et j'ai pris une belle leçon d'ouverture d'esprit en écoutant Madame Gauthier. Pas d'accord sur la finalité végétarien-vegan, mais complètement en phase avec la question du bien-être animal. Mangeons beaucoup moins de viande, mais en étant extrêmement exigeants sur le système de production. J'ai la chance de pouvoir acheter en direct producteur et donc d'être en phase avec mes conditions d'omnivore respectueux de l'environnement et de la condition animale. Bravo à L214 pour leurs actions. Même si je ne suis pas d'accord sur tout, votre combat est indispensable. Et vous avez tout mon soutien. Merci.
Attends, au carré, bonjour. C'est Jean-Noël, les heures de cochon et de dans la Sarthe. Donc, L214. Écoutez, j'ai écouté ça avec grand intérêt. Cette femme est fort sympathique. Moi, j'ai la chance d'avoir un tout petit élevage qui se situe en bord d'un chemin de randonnée. Et ça m'est arrivé de discuter avec des éleveurs de porcs en intensif, qui travaillaient à Quimperlé, entre autres, en Bretagne, et qui étaient malheureux des conditions de leurs cochons quand ils voient les miens, quoi. Moi, 16 cochons sur 2 hectares et demi, ils sont heureux. Après, bon, il y a quand même un débat. Qu'est-ce qu'on va faire de tous nos animaux si demain, on ne consomme plus rien? Et comment on gérera la faune sauvage? Bon courage, bonne continuation.
Bonjour, c'est Émilie de Die. Merci à Brigitte Gauthier de l'association L214 d'être venue témoigner. J'ai trouvé ses propos tout à fait pertinents, très intéressants. Et je voulais ajouter une petite touche d'espoir pour le bien-être animal. Je crois que parfois, les enfants comprennent bien plus vite que leurs parents. Dans notre famille, nous ne sommes pas végétariens. Et notre fils, à l'âge de 5 ans, a fait le lien entre les animaux de la ferme et la viande qu'on lui servait à table. Il en a été horrifié et n'a plus jamais voulu manger de viande. Il a maintenant presque 11 ans. Nous, les parents, ça nous a amené à changer notre manière de cuisiner. On continue quand même à manger de la viande chez les autres, mais on n'en achète plus. Les grands-parents, pour eux, ça a été un choc, ils ont eu très peur. Mais maintenant qu'ils voient leur petit-fils en pleine santé, bah, tout va bien. Alors, espoir, espoir. Merci, au revoir.
Je suis Fabienne, je vous appelle depuis les montagnes du Cantal. Je suis la femme d'un éleveur de vaches salaires et laitières. Nous avons une petite exploitation familiale où on prend grand soin de nos animaux. Il faut absolument lutter contre les abattoirs industriels. C'est des robots qui tuent les animaux à la chaîne. C'est terrible. Donc, favoriser, lutter pour le maintien des petits abattoirs qui travaillent bien, c'est mieux pour le bien-être animal. Le combat doit être là. Et mon mari, par exemple, refuse de signer des conventions pour être labellisé bio parce que dans certaines conventions, on lui demande d'envoyer à l'abattoir plus tôt ses bêtes. Et il estime qu'une vache laitière, quand elle produit bien, reste avec nous jusqu'à plus de 10 ans. Et en bio, bah, c'est pas possible. On estime que ça pollue trop. On lui demande de la renvoyer à l'abattoir bien plus tôt. Donc mon mari n'est pas labellisé bio pour garder ses vaches le plus longtemps possible. Merci.
Merci beaucoup pour vos appels. 01 56 40 45 45, c'est le répondeur. Merci à Figaro, Frélon, Le Floc qui a réalisé cette émission. Emma Bouvier qui était aux commandes du dossier. Et donc Élise Christophe à la technique.